Donc, frères et sœurs, au début de la célébration, nous venons de bénir l'orgue, plus exactement l'orgue restauré. À ma connaissance, c'est le seul instrument qui est cité explicitement dans les textes du Concile Vatican II. Alors, on estimera hautement dans l'Église latine l'orgue comme un instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. À l'orgue, le roi des instruments peut conduire à la joie de la foi. L'orgue fait appel depuis toujours et à juste titre, est appelé à juste titre le roi des instruments musicaux parce qu'il reprend tous les sons de la création. Il se fait l'écho de la plénitude des sentiments, de la joie, de la tristesse, de la louange, de la lamentation. Et comme toute musique de qualité, en transcendant la sphère simplement humaine, il renvoie au divin. Il en est, d'une certaine mesure, il fait l'écho à tous les domaines de l'existence humaine. Les multiples possibilités de l'orgue nous rappellent, d'une certaine façon, l'immensité, la magnificence, la beauté et la gloire de Dieu. Dit Benoît XVI à propos de l'orgue. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est une joie profonde, en tout cas pour l'évêque, de nous réapproprier le son du grand orgue de la cathédrale, de proclamer avec lui la louange et la gloire de Dieu, de dire avec lui la splendeur de l'œuvre de Dieu. Vous le savez, nous célébrons aujourd'hui aussi, en ce dimanche, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. L'Église, au cours de l'histoire, a éprouvé le besoin de consacrer une fête particulière pour rendre grâce d'une manière forte pour le don de l'Eucharistie, et cela en plus de la célébration du Jeudi Saint, pour s'arrêter sur le mystère de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Le Concile Vatican II dit « L'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui qui donne la chair et la vivifie par l'Esprit et qui est vivifiante et qui donne la vie aux hommes. » Donc il est difficile de dire en quelques mots simples ce qu'est l'Eucharistie. Et peut-être que la meilleure définition qui est reprise dans la tradition de l'Église, c'est sans doute le sacrement de l'amour. Au sens où tout l'amour de Dieu nous est rendu accessible et nous est livré dans l'Eucharistie. Au sens où l'accès à l'Eucharistie suppose que nous soyons déterminés à vivre de la charité et que nous travaillons à écarter de nos cœurs ce qui est contraire à l'amour, au sens où l'Eucharistie a pour conséquence de faire grandir en nous la charité. Alors je me permets de reprendre ici un propos que j'ai lu chez Chiara Lubich, fondatrice des mouvements des Focolari. Elle exprime ainsi ce qu'est l'Eucharistie. Un Dieu s'est fait homme. Jésus est venu sur la terre et il pouvait tout faire. Mais il était dans la logique de l'amour qu'après être passé de la Trinité à la vie terrestre, il ne reste pas seulement sur terre 33 ans, mais trouve le moyen d'y être présent en tout point pendant tous les siècles au moment culminant de son amour, sacrifice et gloire, mort et résurrection, il inventa l'Eucharistie. L'Eucharistie est la présence du Christ au moment culminant de son amour. Dans l'Eucharistie, tout le mystère de l'amour de Dieu, tout le mystère de l'alliance de Dieu avec l'humanité qui nous était préparé et annoncé dans l'Ancien Testament est rendu présent. Dans la célébration du dernier repas de Jésus avec ses disciples qui nous a été rapporté dans l'évangile de Marc cette année, Jésus anticipe et donne sens aux événements qui vont suivre, c'est-à-dire sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection, le don total de lui-même sur la croix par amour et sa victoire sur la mort. C'est cela le point culminant de l'amour de Dieu. Et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, que nous prenons le pain, le vin, comme il nous a dit de le faire, nous sommes mis en présence de la mort et la résurrection de Jésus. Paul VI disait ceci, pourquoi Jésus a voulu se faire sacrement eucharistique? Pourquoi? Pour être à la disposition de tous. Il s'est multiplié de telle manière afin d'être disponible à chacun de nous. Magnifique. En chaque Eucharistie, nous sommes face à l'amour même de Dieu et nous sommes invités à accueillir l'amour de Dieu pour en être transformés. Vous savez aussi que l'Église croit et affirme la présence réelle, substantielle et permanente du Christ sous les espèces eucharistiques. Le prêtre invoque l'Esprit Saint, prononce les paroles de l'institution, comme Jésus nous a dit de le faire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'Église croit que le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés en corps et en sang du Christ glorieux. Nous croyons, c'est encore Paul VI qui dit cela, que la mystérieuse présence du Seigneur sont et continue et qui continue à apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant est une présence vraie, réelle, substantielle. Alors c'est pour cela que nous pouvons adorer le Saint-Sacrement. L'adoration eucharistique est liée à la célébration de l'Eucharistie. L'acte d'adoration en dehors de la messe plonge et intensifie ce qui se réalise dans la célébration eucharistique. Alors je pense aux milliers d'hommes et de femmes au cours de l'histoire qui ont consacré leur vie à l'Eucharistie, qui ont puisé la charité dans la prière silencieuse devant la présence réelle. Je pense au bienheureux Charles de Foucault, seul dans son désert, passant des nuits entières devant le Seigneur présent. Je pense au Saint Curé d'Ars, qui passe des nuits entières, au grand étonnement de ses paroissiens, devant le tabernacle. Je pense à Sainte Mère Teresa, qui passe de l'adoration eucharistique au service des plus souffrants et des plus pauvres, en considérant que c'est le même acte. Nous le recevons aussi en nourriture. Nous communions au corps et au sang du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Mais il a voulu aller plus loin. Il s'est fait nourriture pour que nous nous nourrissions de lui, pour que nous devenions d'autres lui. Dans la participation au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre résultat que de nous faire passer en ce que nous recevons, dit le Concile Vatican II. Et puis Cyril d'Alexandrie, ainsi devenons-nous porte-Christ. Son corps et son sang se répandent dans nos membres. De cette façon, nous devenons participants de la vie divine. Alors, si je me permets de vous rappeler cela, cette fête, c'est pour raviver en nous la conscience de ce que est l'Eucharistie. Et il est bon de s'interroger sur notre relation avec elle. Est-elle réellement le centre de notre vie? Elle est source et sommet de la vie de l'Église, dit le Concile. Est-elle source et sommet de nos vies? Un chrétien vit de l'Eucharistie. Alors bien sûr, il ne suffit pas de participer à l'Eucharistie. C'est Marthe Robin qui dit « On peut aller à la messe tous les jours et être une pieuse nullité. » Parce qu'on peut toujours rester extérieur aux choses. Donc il ne suffit pas de participer à l'Eucharistie. L'Eucharistie est là, la charité même de Dieu. Et elle produit en nous la charité et suppose que nous tendions à la charité. Dans la communion eucharistique sont contenus le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à notre tour. Une Eucharistie qui ne se traduit pas dans une pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Benoît XVI. Donc en ce jour où nous célébrons, ou que l'Église nous invite à faire mémoire de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, où nous venons de bénir l'orgue, où nous voulons exprimer la splendeur de Dieu par la liturgie, je ne résiste pas pour conclure à vous citer un passage bien connu de Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici, dans l'Église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Et à quoi bon servir, revêtir la table du Christ de voile d'or si tu ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire? Je ne te dis pas cela pour t'empêcher de faire de telles générosités, mais je t'exhorte à les accompagner, ou plutôt les faire précéder par d'autres bienveillances. Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là est plus important que l'autre.